Antoine Robitaille.
Il connaît tous les dessous de la politique.
Une entrée privilégiée dans le Parlement.
Là-haut sur la colline. Antoine Robitaille.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit David Carpentier, l'auteur d'un essai riche et au titre évocateur, La métropole contre la nation. Il décortique le fossé grandissant entre Montréal et le reste du Québec et voit dans l'interculturalisme clairement défini, il ne l'est pas actuellement, une façon de combler au moins en partie ce fameux fossé. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre. Nadeau. Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, la rentrée de Québec solidaire, ce parti sonné, ce parti dont on n'entend pas parler. Je dis sonné parce que c'était la chronique de Mario Dumont il y a quelques semaines
qui
disait,
c'est vrai,
faisait remarquer que
on les voit pas.
Sont fantomatiques.
Exact. Ceci étant, moi je suis pas j'associe pas leur faible présence médiatique, je dirais, des dernières semaines à une déprime post-électorale non plus. Je pense que c'est peut-être un peu court parce que c'est normal, après la campagne électorale, de préparer, avec quelques nouveaux, les sujets à aborder lors de la rentrée parlementaire. Je pense que c'est un choix qu'ils ont fait d'attendre et de se préparer, et peut-être ne serait-ce que pour être meilleur lorsque ça va vraiment compter.
C'est peut-être nous qui sommes impatients.
C'est
nous,
ça.
Les médias, il faut toujours nourrir notre bête.
Exact.
Et notre bête a faim.
Je pense que c'est un peu ça. Il y a eu une période, on dirait, où ça a été plus tranquille. Les libéraux se sont occupés, je dirais, de nourrir l'attention médiatique avec leur querelle. Mais ceci étant, donc c'est ça. Moi, je pense pas que
en s'auto-détruisant.
Exactement. Donc, je pense pas que parce que Québec solidaire a été moins présent, ça veut nécessairement dire que ils étaient en déprime. Mais ceci étant, aujourd'hui, c'était leur rentrée, donc un peu plus tard, entre guillemets, que les autres partis qui ont tenu leur caucus de rentrée la semaine dernière, quoique celui de la CAQ, on n'a pas parlé vraiment parce que, écoute, il a duré le temps de le dire, le temps d'une chanson, comme quand on a
rentré. Ils ont réglé ça en un après-midi.
Oui. Alors, les solidaires, eux, c'était leur rentrée, caucus au Parlement, tenu donc à Québec. Et, il y a eu quelques commentaires de formulés à l'entrée, mais je vais d'abord parler de la conférence de presse qu'ils ont tenue. Le message qu'ils avaient à passer, c'est que, pour eux, la priorité, c'est vraiment la lutte contre l'inflation. Et d'après
eux... Les autres aussi?
Oui. Et d'après eux, la CAQ devra en faire plus. Le gouvernement, donc, de François Legault devra en faire plus. Il y a eu quand même... ça c'est pas encore fait, là, ça va arriver dans les comptes de banque des Québécois dans les prochaines semaines, mais le 400 à 600 $ d'aide directe là, pour lutter contre la hausse des prix. Mais il y a aussi le fait que le gouvernement Legault va déposer, dans le cadre de cette très, très courte session de 2 semaines de travaux parlementaires, un projet de loi pour limiter la hausse des tarifs à 3 %.
Le projet de loi numéro 1?
Oui.
Et très symbolique.
Oui, quand on était en campagne électorale, on disait quel est le premier geste que vous allez poser? Puis c'était on va
plafonner les tarifs.
Oui. Alors, c'est sûr que la CAQ, en ce sens, est fidèle à ce qu'ils ont toujours prôné. Donc, même à l'élection de 2018, ils disaient, nous, on veut pas que les tarifs augmentent de plus que l'inflation. Là, le problème, c'est que l'inflation, cette année, c'est beaucoup plus que les années dernières. Et même, par exemple, pour les tarifs d'Hydro-Québec, ça posait problème. Parce si on ne faisait rien, au printemps prochain, il y aurait eu une augmentation qui aurait pu être de 5 %, par exemple, ou 6 %. Et la dernière fois que c'est arrivé, une augmentation aussi élevée, là, il y a eu 5,3 % de hausse de tarifs d'hydro en 2006.
Ah oui!
Et ça faisait justement suite à quelques années où il y avait eu des gels, d'ailleurs. Alors, bref...
Et Jean Charest s'était fait ramasser à cause de ça, je me souviens, dans une usine...
Oui!
Pendant la campagne...
Les bras croisés,
oui.
Oui, exactement.
Et mon compte d'hydro augmente tout le temps, moi.
C'était pas dans Beauharnois.
Exactement.
Oui. Si mon souvenir est fidèle, effectivement, qu'ils aient arrêté de parler, ça me coûte plus cher à chaque fois que vous dites quelque chose. C'était de toute beauté, ah oui, sous l'œil des caméras. Alors donc, QS, je reviens à eux, c'est que ce qu'ils disent, c'est que limiter la hausse des tarifs à 3 % ce n'est pas assez. Ce qu'ils demandent, c'est un gel. Alors, autant pour, par exemple, Hydro-Québec que des permis, que pour, par exemple, les chambres dans les CHSLD. Mais ceci étant, Québec solidaire ne proposait pas un gel des tarifs à la campagne électorale, là, donc il y a quelques mois. Là.
Non.
Pourquoi maintenant ils demandent? La question leur a été posée. Gabriel Nadeau-Dubois a dit « Oui, mais en campagne électorale, c'est différent. Nos propositions, c'était des propositions de gouvernement solidaire, là, comprenant différents éléments là, sur différents sujets.
Okay.
Alors que là, ils disent que ben, maintenant, là, on fait cette proposition-là comme parti d'opposition qui demande un geste le plus ciblé dans un secteur particulier.
Désormais, en campagne électorale, alors, il faudrait que les partis déposent un programme d'opposition.
Oui.
Pas juste de gouvernement.
Quasiment, parce qu'effectivement, ça devient... Si c'est pour être différent, effectivement, t'as raison, ça pourrait quasiment être le cas. Mais donc, dans le cas de la campagne électorale, Québec solidaire proposait de suspendre la TVQ sur les biens essentiels, mais eux rentraient là-dedans les vêtements, tous les vêtements.
Oui, je me souviens, oui.
La facture des restaurants...
Oui.
Les vêtements, là, à ce moment-là, des fois, c'est pas toujours... ça aurait pu inclure des vêtements de luxe là, pour des gens qui ont moins besoin.
Puis les restaurants, ça aurait pu être Pierre Fitzgibbon. Là.
Même chose oui, c'est dans ça. Un restaurant aussi.
Ça irait pas de taxes.
Bon, ouais. Mais bref, ils ont ajusté, disons, eux-mêmes ce qu'ils proposent maintenant. Et bon, d'après eux, c'est que le gouvernement, quand il va proposer quand il va déposer en fait son projet de loi, ben ils annoncent comme déjà qu'ils souhaiteraient eux présenter des amendements et faire en sorte que ce soit un gel. Moi, je reviens sur le fait que c'est beau de dire on va geler des tarifs, mais comme par exemple dans le cas d'Hydro-Québec, c'est parce que inévitablement ça fait en sorte qu'après quand tu dégèles, ben là t'as une hausse de tarifs qui est plus élevée. Donc, est-ce que
ça peut être une débâcle.
Oui, alors là, c'est ça. Alors là, est-ce qu'on se rend vraiment service?
Ouais.
Je ne suis pas sûr. Moi, personnellement, comme consommateur, là, je dirais que j'aime mieux, dans le fond, avoir une hausse plus prévisible, plus faible, mais plus constante.
Puis plus objective.
Oui,
parce qu'un gel, on l'a vu aussi dans les universités, les tarifs, les frais de scolarité, ça n'a pas aidé, au fond. Ça a fini par une crise
exact.
En 2012, quand on a voulu dégeler, justement, puis avoir des hausses. Donc, c'est bien de prévoir des hausses, peut-être pas des... Peut-être les plafonner, c'est une bonne idée, mais au moins en prévoir.
C'est ça, exactement. Ça permet une plus grande stabilité et prévisibilité et de s'économiser un choc tarifaire pour plus tard. Alors,
voilà.
Bon, c'est la proposition de Québec solidaire, mais voici, c'est ce que j'en pense.
Et je suis d'accord. Parle-nous d'Harold Lebel, maintenant, qui a été formellement accusé, non seulement formellement accusé, mais reconnu coupable.
Oui, c'est quand même un choc, déjà, le fait qu'il ait été arrêté alors qu'il était député. Écoute, c'est vraiment pas arrivé souvent dans le passé qu'un élu soit arrêté pendant un mandat politique. Ça a provoqué son expulsion du
On
Parti
se souvient
québécois.
De Gilles Grégoire.
Exactement. Et,
il y a très longtemps.
Oui, exactement.
Dans les années
83.
Ouais.
Et donc, dans le cas d'Harold Lebel, déjà, c'est ça, son arrestation avait été un choc. Il avait été expulsé du Parti québécois. Quand c'est arrivé, c'est sûr que M. Lebel est comme disparu de la place médiatique.
Oui.
Bon. Mais après un certain nombre de mois, il avait recommencé à être actif. Il avait commencé à poster, par exemple, à publier, pardon, des vidéos qu'il faisait, par exemple, avec des organismes communautaires dans son comté, dans Rimouski, comme député indépendant. Et,
il est venu au Parlement ici.
Oui, c'est ça. Recommencé à faire des interventions publiques. Et donc, ça donnait l'impression qu'il se préparait à présenter sa candidature comme député indépendant à l'élection d'octobre dernier. Et finalement, quand il s'est rendu compte que son procès ne serait pas tenu avant, là... Bon, il s'est dit qu'il ne pouvait pas aller, par exemple, solliciter l'appui des citoyens avec un procès pendant contre lui. Alors, il avait décidé de quitter la vie politique. Et là, ben, c'est comme ex-député qu'on apprend aujourd'hui. Donc, il est reconnu coupable d'une accusation d'agression sexuelle qui a été portée contre lui. Là, il s'expose évidemment à une peine de prison. On verra la suite des choses, mais je reviens aux quelques exemples, les rares exemples qui sont survenus.
Oui.
Bon, tu parlais de Gilles Grégoire. Écoute, ça, ce qui est très particulier, c'est qu'il avait été reconnu coupable de détournement de mineurs.
Oui.
Et il avait purgé une peine de détention. Mais après avoir purgé sa peine de détention, pendant quelques mois, il était revenu siéger au Parlement en 1984.
Oui.
Ça, je peux pas croire que ça arriverait aujourd'hui.
Sûrement pas.
Ça, en tout cas, ça paraît inimaginable. Mais évidemment, ça a été bon, la fin de sa carrière politique là, comme telle, après qu'il ait joué quand même un rôle très important au Parti québécois parce qu'il a été
dans la fondation.
Des membres fondateurs, exactement. Oui. Il avait même suggéré, lui, le nom de Parti québécois qui est resté. Il y a aussi, chez les libéraux, il y a Yves Saint-Denis qui était député d'Argenteuil, député libéral. Lui, ça s'est passé, il était député, il a été expulsé du Parti du caucus du Parti libéral du Québec en 2018 parce qu'il y avait d'abord... une histoire à l'interne. Il avait envoyé des images non sollicitées. Là,
pornographiques.
C'est ça, à quelqu'un du personnel politique. Il avait été expulsé. Et là, il y avait toutes sortes de rumeurs à son endroit. Il y a eu par la suite une accusation vraiment criminelle qui a été portée contre lui. Et c'était un cas d'agression sexuelle aussi. Et il y a des similitudes, je dirais, avec l'histoire d'Harold de Lebel. On parlait d'une soirée arrosée. Il s'était retrouvé dans le lit... d'une dame, puis il s'en était suivi, donc l'accusation, il a été reconnu coupable. Dans son cas, quand il a été reconnu coupable, il n'était plus député.
Oui, Yves Saint-Denis, oui.
Mais il s'était représenté, par exemple,
comme indépendant.
Comme candidat indépendant, mais il avait perdu. Et lorsqu'il a été reconnu coupable, dis-je bien, il a écopé, lui, de 50 heures de travaux communautaires avec une absolution conditionnelle. Mais c'est l'autre cas qui est survenu. Sinon... pas d'autres souvenirs là, de cas comme ça. C'est un choc. Évidemment que c'est... peu importe à qui ça survient ou que ça arrive, c'est quelque chose de très surprenant. Mais dans le monde politique, je dirais encore plus, parce que ce sont des gens qui ont obtenu l'appui de citoyens, qui représentent des gens de leur comté.
Pierre-Rod Lebel, longue carrière. Là,
parce
qu'avant d'être député, tu sais, il a été dans les officines... du Parti québécois pendant très longtemps.
Exact. Et lui...
Depuis quoi? Depuis...
Depuis Jean Parizeau, 90, parce que il a été conseiller des premiers ministres du Parti québécois depuis Jacques Parizeau et les autres. Donc, Lucien Bouchard, Bernard Landry, Pauline Marois. Et là, il a tenté, pendant ce temps-là, je dirais, au fil des années, il a tenté de se faire élire à quelques reprises et sans succès.
Il a perdu contre Mario Dumont à un moment donné. Il était quasiment sûr d'être élu. Ça n'a pas marché.
Et c'est en 2014, donc, il a été élu pour la première fois dans Rimouski. Et je te dirais qu'il a marqué les esprits au Parlement, justement en raison de son engagement auprès des organismes communautaires.
C'est ça.
Des gens à plus faible revenu, des gens dans le besoin. Il était porte-parole de l'opposition au Parti québécois en ces matières-là, là, de lutte contre la pauvreté, solidarité sociale, ces choses-là.
Puis au parti, il avait toujours beaucoup de responsabilités. Là. Il était, avant de quitter, avant d'être expulsé, il était quoi? Président et whip?
Oui,
président du caucus et whip.
Oui, exactement. Et je te dirais que dans l'organisation, c'était quelqu'un aussi qui jouait un rôle assez important en raison de son expérience et de ses contacts puis de ça. Alors évidemment, c'est une fin de carrière politique aussi dans son cas bien triste.
Bien, ben merci beaucoup Rémi. Puis on se reparle demain, lendemain de Banquet de la Tribune.
Oui.
Dont on ne parlera pas.
Dont on ne pourra pas parler.
Chers auditeurs, vous n'en entendrez pas parler à cette antenne. C'est à huis clos. Désolé.